Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Un dispositif de sécurité inédit pour tenter d'empêcher les violences en cette nouvelle journée de manifestation. On va en parler dans Europe 1 Midi. Des commerçants parisiens ont décidé de se barricader. Vous les entendrez témoigner dans Europe 1 Midi. Vous allez entendre également Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Il propose avec l'intersyndicale une médiation avec le gouvernement. Pas besoin de médiation pour se parler, a dit il y a quelques instants le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Alors cette médiation, c'est une bonne ou une mauvaise idée, selon vous? Vous appelez le 3921 et on sera avec Gérard Mardinet de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et puis dans Europe 1 midi, je sais que c'est un sujet qui vous fait toujours beaucoup réagir et qui vous intéresse beaucoup. On va parler de la fin de vie. Les évêques de France sont réunis actuellement à Lourdes et ils s'opposent à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Ils publient une lettre qui s'appelle « L'aide active à vivre, un engagement de fraternité ». On va en parler dans Europe 1 Midi avec Louise Salé dans un instant. Et puis on sera aux alentours de 12h45, soyez là si vous le pouvez, avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Et avec vous, bien sûr, au 3921, faut-il ou non légaliser l'euthanasie et le suicide assisté? C'est non pour l'Église catholique et pour vous. Appelez le 3921. La tendance météo, Anissa Haddadi, c'est le soleil qui l'emporte cet après-midi.
Oui, c'est une journée assez lumineuse dans le sud, en particulier entre les Pyrénées et la Côte d'Azur sur le pourtour méditerranéen. Très belle journée. Ailleurs, temps calme avec un voile nuageux un petit peu plus important sur la moitié nord qui viendra de temps en temps masquer le soleil. Et ça se couvre bien nettement sur les côtes de la Manche, des nuages épais qui lâcheront quelques gouttes, ce qui annonce une nouvelle perturbation pour demain.
Anissa Haddadi, merci Anissa. Et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1 midi.
Midi, 13h, Romain Desarbres.
Cette proposition faite par l'intersyndicale, la mise en place d'une médiation entre l'exécutif, le gouvernement, et les partenaires sociaux pour négocier un compromis sur les retraites. Avant d'écouter la réponse du gouvernement, elle est déjà arrivée, voici ce que propose Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Écoutez.
On a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution sur des sujets qui sont plus que jamais d'actualité, la pénibilité, le travail. Et donc c'est la proposition qui a été faite par l'intersyndicale. Et donc nous allons écrire au président de la République pour valider par écrit cette proposition.
Voilà, Philippe Martinez, patron de la CGT, qui s'exprimait ce matin depuis la manifestation organisée à Clermont-Ferrand. Proposition donc de l'intersyndicale, une médiation entre les syndicats d'un côté et le gouvernement de l'autre. Voici justement la réponse qui est tombée il y a quelques instants du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale. Ensuite, la première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. Le Conseil constitutionnel a été saisi parce qu'on veut pouvoir aller au bout du chemin démocratique sur ce texte de loi, ce qui ne nous empêche pas du tout de commencer à discuter des modalités d'application des différents éléments du texte, mais aussi, je le répète bien volontiers, de discuter au-delà du seul contenu de la réforme des retraites, de ce que nous pouvons faire ensemble pour faire progresser les droits des travailleurs. Et donc pour cela, il faut qu'on puisse se parler et discuter. Et nous estimons qu'il n'est pas lieu d'avoir une médiation, il n'y a pas de médiateur dans la République quand on peut se parler directement.
Voilà, Olivier Véran, donc, qui a pris la parole ce matin. On va partir justement à l'Élysée, retrouver Jacques Seret. Bonjour Jacques.
Bonjour.
À l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement compte bien aller au bout du processus engagé pour promulguer la loi sur la réforme des retraites.
Oui, on peut le dire, Romain, cela s'apparente à un dialogue de sourds. Quand Laurent Berger demande à mettre en suspens la réforme des 64 ans, du côté de l'exécutif, on estime que c'est déjà le cas, puisque cette réforme est entre les mains du Conseil constitutionnel. De fait, la réforme est suspendue à la décision des sages, estime un proche conseiller d'Emmanuel Macron. Autrement dit, syndicats et gouvernement n'ont pas encore commencé à se reparler, qu'ils s'opposent déjà sur les conditions préalables au dialogue. Une certitude, cette déclaration du patron de la CFDT met quelque peu la Macron Macronier dans l'embarras. Berger fait un très beau coup, analyse un conseiller. Il sait que sa main, on ne peut pas la prendre comme il le souhaite. Explication de texte d'un stratège macroniste. Partir sur un ou deux mois de médiation, c'est enterrer la réforme. Et ça, c'est hors de question du point de vue de l'exécutif.
Jacques Serret, en direct depuis l'Élysée pour Europe 1. Merci beaucoup, Jacques. Alors, c'est la dixième fois que l'intersyndicale appelle à une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Durant plusieurs semaines, c'est l'esprit bon enfant des cortèges qui caractérisait le mouvement jusqu'au 49-3 et jusqu'aux manifestations de jeudi dernier. Aujourd'hui, 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer l'ordre dans les rues du pays. C'est inédit par son ampleur. C'est un dispositif inédit de sécurité par son ampleur. Parmi les villes à risque, citées par le ministre de l'Intérieur hier, Gérald Darmanin, il y a Nantes, où l'on retrouve Charles Guyard. Charles, vous constatez des premières tensions dans le cortège?
Oui, la dixième journée a commencé tôt ce matin avec plusieurs opérations de blocage. Elle se poursuit dans le centre-ville avec un nouveau cortège sur le point de partir. Et ce, malgré une répression policière de plus en plus marquée, selon les manifestants.
À un moment, on est passé juste devant des CRS et on voyait qu'ils étaient préparés à tirer. Et c'est vrai qu'on se sentait pas très serein face à ça.
C'est vrai qu'il y a un peu de stress de se dire qu'il y a la police qui va probablement nous charger dessus. Tout ce qui est flashball, fumigène, tout ça.
Ils vont un peu fort. Pour certains, des fois, ils foncent sur des gens âgés ou même des enfants. Pour pas grand chose, quoi.
Effectivement, on constate quand même une utilisation excessive des lacrymogènes.
C'est pas la faute des syndicats, c'est la faute des casseurs et c'est la faute de peut-être aussi du gouvernement qui veut pas écouter.
Si on a peur, au bout d'un moment, qui va les manifester à part les black blocs? Ça donnera juste raison à l'extrême droite qui dit que les ultra-gauchistes sont juste là pour tout casser. Alors qu'en fait, là, on défend juste la cause.
Une cause qui, malgré un climat qui se dégrade, continue de mobiliser plusieurs milliers de personnes à Nantes comme dans tout l'Ouest.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1, à Nantes, dans Europe 1 Midi. À Paris, début de la manifestation à 14h. Les autorités attendent 70 à 100 000 personnes. Le cortège va partir de République. Direction la place de la Nation et dans le quartier d'arrivée, riverains et commerçants craignent les affrontements de fin de manifestation. Des fauteurs de troubles ont pris l'habitude de casser mobiliers urbains et vitrines. Alors, les gérants de magasins se barricadent. Reportage Europe 1 de Chloé Lagadou.
On est en train de barricader les vitrines.
Des ouvriers installent de larges panneaux en bois devant l'agence immobilière de Cathy. Elle craint d'éventuels débordements au passage du cortège.
On a vraiment très peur et ça nous coûte énormément cher de faire ça. Il y en a au moins pour 2000 euros parce que le bois est cher. C'est manuel, ils en ont pour une demi-journée. Il va falloir la démonter après. On essaye de se protéger.
D'autant que le quartier a déjà souffert, alors Christian va lui aussi barricader sa boutique de bricolage.
Il y a quand même un an où ils ont cassé toutes les vitrines, les portes. Tous les produits ont été volés. Il faut se faire entendre, ok, mais on n'est pas obligé de casser. Nous, après, derrière, c'est notre gagne-pain. Moi, ça m'inquiète énormément.
Même si les poubelles ont été ramassées le long du parcours de la manifestation, Patrick se méfie.
Il suffit pas grand-chose pour que ça s'enflamme. Moi, je ramasse des trucs qui traînent, qui pourraient être des projectiles, et je vais les mettre chez moi à la poubelle. Mais je crois que c'est tout ce qu'on peut faire.
Et à la peur des dégradations s'ajoute la crainte de voir leur chiffre d'affaires plomber par cette dixième journée de manifestation.
Reportage de Chloé Lagadou pour Europe 1. Parallèlement aux manifestations, grèves et blocages se poursuivent dans plusieurs secteurs. Trafic des trains et métros perturbés à la SNCF et à la RATP. Tous les détails sur europe1.fr. En milieu scolaire, 8% d'enseignants grévistes selon le ministère, contre 21% jeudi dernier, donc 13 points de moins. La mobilisation dans les raffineries provoque toujours des tensions sur l'approvisionnement en carburant. C'est très local. 15% des stations-service au niveau national manquent d'au moins un produit. C'est important. 15% des stations-service au niveau national manquent d'au moins un produit. Il faut avoir ce chiffre en tête. Quelques actions coup de poing à signaler. Périphérique bloqué à Caen, Rennes et Nantes, ou encore l'occupation de l'aéroport de Biarritz par une centaine de manifestants. On signale également de nombreux blocages devant des lycées, des collèges et des facultés. Alors, cette proposition de médiation que fait l'intersyndicale, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Vous appelez le 39-21 et on sera dans un instant avec le représentant en charge des retraites de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Il sera avec nous dans Europe 1 Midi. Dans ce contexte explosif, on apprend que les finances publiques se portent un petit peu mieux que prévu. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
L'INSEE dévoile ses statistiques pour l'année dernière, marquées bien sûr par la guerre en Ukraine, Premier paramètre marquant, la dette publique ne franchit pas encore la barre des 3 000 milliards d'euros et on en est presque à s'en réjouir.
Oui, en tout cas, c'est une petite surprise. Mmh. Fin septembre 2022, la dette atteignait 2 956,8 milliards d'euros. À la fin du mois de décembre, elle a reculé à 2 950 milliards d'euros, quelque 7 milliards de moins. Et de la même façon, le déficit public a été moins important que prévu sur l'année 2022, 4,7% sous les 5% donc. Des bonnes surprises qui s'expliquent par les rentrées budgétaires, comme le souligne François Eckal, ancien magistrat à la Cour des comptes.
Typiquement, au quatrième trimestre, vous avez tous les impôts locaux qui rentrent, hein, les taxes foncières, mon taxe d'habitation pour ce qui en reste. Vous avez le solde de l'impôt sur le revenu qui est encaissé progressivement à partir de septembre-octobre. Et à la fin de l'année, au 15 décembre, il y a un très gros acompte d'impôt sur les sociétés.
D'où le chiffre marquant publié par l'INSEE ce matin, la part des prélèvements obligatoires dans le PIB. Nous n'avons jamais connu un taux de prélèvement obligatoire aussi élevé, 45,3%. Les taux d'imposition ont baissé, mais les recettes ont augmenté. Comme quoi, les bénéfices records, bah, ça a aussi du bon. Concernant la dette publique, on peut raisonnablement dire que le seuil des 3 000 milliards d'euros a dû être franchi ces dernières semaines, mais on ne le saura officiellement qu'à la fin du mois de juin.
Baptiste Morin, merci beaucoup Baptiste. Restez bien avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1. Dans un instant, on vous révèle en exclusivité ce communiqué de la conférence des évêques de France, publié à l'instant, l'aide active à vivre un engagement de fraternité, la conférence des évêques de France, qui dit non à la légalisation de l'euthanasie et qui dit non à la légalisation du suicide assisté. Louise Salé pour les informations, et puis des informations européennes. Et puis à 12h45, on sera en direct avec Monseigneur Mathieu Rouget. Et vous, et avec vous bien sûr, vous appelez le 3921. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 midi, Romain Desarbres.
C'est une information qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. À la conférence des évêques de France, qui démarre aujourd'hui à Lourdes, une centaine d'évêques co-signent un texte politique pour s'opposer à une nouvelle loi sur la fin de vie, alors même que les conclusions de la Convention citoyenne qui se penche sur ce sujet depuis 4 mois seront dévoilées dimanche prochain. Louise Salé avec nous, c'est vous qui révélez cette information sur Europe 1. Bonjour Louise.
Bonjour.
Vous avez eu accès au contenu du texte signé par les évêques. Que contient-il exactement ?
Alors c'est une prise de position très franche hein, en faveur, je cite, des malades et des handicapés dans ce lieu symbolique de la guérison qu'est Lourdes. L'Église se dit sensible à leur souffrance. Elle demande le développement des soins palliatifs sans céder, je cite, à la facilité légale et économique de l'aide active à mourir. Un message déjà martelé à plusieurs reprises. Monseigneur Vincent Jordy est archevêque de Tours. Il est vice-président de la Conférence des évêques de France.
Nous sommes dans une semaine un peu déterminante, puisque le président de la République va recevoir le résultat de la Convention citoyenne. Et ce que nous voulions dire, c'est qu'autour de ce débat sur la fin de vie et le suicide assisté, il y a toute la question de la personne fragile, de la personne en pauvreté humainement, relationnellement. Nous sommes pour la vie. Nous pensons que l'accompagnement des personnes du grand âge est une réalité extrêmement importante et nous avons besoin de le penser de cette manière-là.
Les évêques soutiennent ainsi les soignants qui disent que la main qui prend soin ne peut être celle qui donne la mort. Ils appellent également au respect de la valeur de la vie pour réfléchir, disent-ils, à une aide active à vivre.
Merci beaucoup Louise Salé. Et le président de la Conférence des évêques de France réagit au sujet des retraites ce matin également. Éric de Moulin-Beaufort, Monseigneur de Moulin-Beaufort, estime que les violences observées au cours des derniers jours sont un symptôme alarmant de l'état du tissu social dans notre pays. On sera avec Monseigneur Mathieu Rouget, qui est évêque de Nanterre à 12h45, et avec vous au 39-21. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard d'Europe 1 Midi, bien sûr. Cette information qui est tombée il y a quelques minutes, plusieurs perquisitions sont en cours aujourd'hui dans 5 établissements bancaires français à Paris et à La Défense sur des soupçons de fraude fiscale aggravée. C'est ce qu'indique le PNF, vous savez, le Parquet National Financier, qui confirme une information du journal Le Monde. Selon le ministère public, ces opérations sont menées par 150 enquêteurs de Bercy, 16 magistrats français et 6 allemands, dans le cadre d'enquêtes ouvertes fin 2021 par le PNF sur une, ce qu'on appelle le cum-cum, c'est une combine fiscale sur les dividendes dont le préjudice pour les États se chiffrerait à plus d'une centaine de milliards d'euros. La Société Générale, la BNP Paribas, Exane, qui est une filiale de la BNP, Natixis et HSBC, sont visés par ces soupçons. Voilà, l'enquête est donc en cours. Il est midi et quart. 2 victoires en 2 matchs, mission accomplie pour l'équipe de France de foot lors du début des qualifications pour l'Euro 2024. Après avoir écrasé les Pays-Bas, les Bleus se sont imposés avec beaucoup plus de difficultés en Irlande hier soir. Score final 1-0. Jean-François Pérez avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous avez commenté ce match pour Europe 1, vous êtes encore à Dublin. Si on retient évidemment le magnifique but de Pavard, de Benjamin Pavard, l'autre moment fort de cette rencontre, c'est sans conteste cet arrêt de classe mondiale du gardien français Mike Maignan. Hein.
Ouais, on va convoquer l'histoire du football rapidement. Un jour, Pelé avait dit du gardien anglais, Gordon Banks a arrêté un but que je venais de marquer. Là, c'était un arrêt qui était sur une tête au sol, et il y a eu un rebond et l'arrêt de Banks avait été extraordinaire. Hier soir, c'était dans la lucarne que ça s'est passé à la dernière minute. Tous les Irlandais ont vu but et je pense même que quasiment tous les joueurs ont vu but également. Mais Maignan a fait une parade, une détente, une envergure absolument extraordinaire, l'un des plus beaux arrêts de ces derniers mois. Vous allez entendre les réactions que Cyril de la Morinerie a prises après le match auprès des joueurs français. Vous allez entendre Aurélien Tchouaméni, Benjamin Pavard et tout d'abord Ibrahima Konaté.
Incroyable, je l'ai envoyé dans les buts, mais je l'ai vu, il a surgi de nulle part, franchement exceptionnel.
Ouais, mais c'est normal, c'est Mike Maignan, on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est un arrêt exceptionnel.
Pas forcément surpris parce que voilà, je connais les qualités de Mike et on est très content de l'avoir parmi nous. Il a démontré le très grand gardien que c'est et c'est bien pour l'équipe de France.
Alors Jean-François, pour Mike Maignan, ce n'est que le début de l'aventure en bleu, hein, mais pour ceux qui, comme vous, suivent le football au quotidien, c'est tout sauf un inconnu. Hein.
Exactement, Guyanais, formé au Paris Saint-Germain, il a été champion de France avec Lille en 2021. Depuis 2 saisons, il joue au Milan AC où il fait des prouesses. Hein. Il est sans conteste l'un des meilleurs gardiens européens à l'heure actuelle. Et s'il ne s'était pas blessé juste avant la Coupe du Monde, il aurait fait partie du voyage au Qatar. Didier Deschamps le sait pertinemment, c'est bien lui, vous allez l'écouter, le successeur d'Hugo Lloris.
Mike, il a toutes les qualités, l'envergure et en plus, il a le mental parce que c'est un leader. J'avais pas de doute ou d'incertitude par rapport à Mike. Et à partir du moment où il est en pleine possession de ses moyens, c'est du très haut niveau.
Voilà, Iron Mike ou Spider Mike en acier ou Mike l'araignée, c'est comme ça que la presse irlandaise le surnomme ce matin. Avec lui, je pense qu'on peut voyager tranquille. L'équipe de France n'a pas pris un but sur les 2 derniers matchs et on se retrouve au mois de juin pour la suite de ces éliminatoires.
Voilà, super Mike Maignan. Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 en direct de Dublin. La bourse à présent avec Claire Lemaître. Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
Comment ça réagit à Paris?
Alors la séance avait bien démarré, mais là c'est plus timide. Plus 0,2% pour le CAC 40, 7095 points. Le secteur bancaire donc qui repart déjà en baisse. Secteur fragilisé depuis quelques jours par les craintes sur la solidité du système. Société Générale cède 1,7%. BNP Paribas est stable. On vient donc de l'apprendre. Le parquet national financier mène en ce moment des perquisitions dans les locaux de plusieurs banques, dont Société Générale et BNP. Une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale sur une pratique répandue dans les banques pour contourner l'impôt sur les dividendes dus par les actionnaires des entreprises cotées en bourse. Alors évidemment, le timing n'est pas très bon pour le secteur bancaire qui est déjà fragilisé. Ailleurs, en Europe, la bourse de Londres gagne 0,2%, plus 0,1% pour Francfort, plus 0,1% pour Amsterdam et donc le CAC 40 en petite hausse, plus 0,2%, 7095 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com. La météo à présent avec Anissa Haddadi et la journée qui est printanière, Anissa.
Oui, une journée calme, une journée ensoleillée, en tout cas dans le sud. Hein. Des Pyrénées-Atlantiques à la Côte d'Azur et jusqu'en Corse, soleil radieux dans un ciel quasiment sans nuages. Un petit peu plus au nord, ça se couvre de la Gironde aux Alpes avec toujours ce risque d'avalanche. Attention, risque important, 4 sur 5 pour les Alpes du Nord avec ce risque d'avalanche. Puis sur la moitié nord, le voile nuageux est un petit peu plus épais et qui viendra de temps en temps masquer le soleil. Ça se couvre nettement sur les côtes de la Manche avec des nuages épais qui lâcheront quelques gouttes sur la pointe bretonne, le Cotentin et les Hauts-de-France. Ce qui annonce une nouvelle perturbation pour demain. Les températures, 10 degrés à Metz et Lille cet après-midi, 13 à Paris et Besançon, 16 degrés à Aurillac et Nice, 17 à Montluçon et Marseille, 20 degrés pour Albi et Toulouse, 23 la maximale à Tarbes.
Anissa Haddadi. Merci Anissa. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe 1 Midi. Dans un instant, on sera avec Gérard Mardinet, expert retraite à la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Il propose avec l'intersyndicale une médiation pour régler le problème des retraites. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour l'instant, le gouvernement oppose à cette proposition une fin de non-recevoir. Olivier Véran dit qu'on n'a pas besoin de médiation pour se parler. On en parle, nous, dans Europe 1 Midi. Vous appelez le 3921. À tout de suite.